Dans tous les romans de Jean-Philippe Toussaint, à l'exception de Monsieur, l'histoire est racontée par des narrateurs à la première personne. Et comme il n'y a aucun indice qui puisse faire penser qu'il s'agit de récits écrits, il faut partir du principe qu'ils racontent leurs histoires à l'oral. Dans certains romans, le narrateur, pourtant anonyme, gagne au cours de son récit les contours d'un personnage auquel on attribue un caractère. Il suffit de penser au narrateur de la salle de bain ou de la télévision que l'on a, à la fin, l'impression de bien connaître dans leurs phobies ou leurs inclinations, avec leurs tics et leurs tendances à l'ironie, celle-ci étant peut-être le seul trait commun à tous les narrateurs de Toussaint. Le cycle de Marie présente un cas un peu à part. Même à la fin des quatre romans constituant ce cycle, on ne sait pas grand-chose du narrateur qui, présent ou absent, suit Marie comme une ombre. Son projet à lui, c'est de raconter leur histoire, leur amour dans toutes ses vicissitudes, et on peut être rassuré sur le fait que leur amour durera tant qu'il le raconte. Ce que l'on sait en outre, c'est comment il perçoit la réalité, sa réalité, dans la mesure où sa façon de raconter en témoigne. Parmi tous les narrateurs de Toussaint, il ne se trouve aucun auteur-narrateur. Cela change évidemment dans le dernier texte de Toussaint, Made in China. Ce texte ne porte pas l'indication paratextuelle générique de roman. Pourtant, je me propose ici de le lire comme un roman, c'est-à-dire comme une fiction, en prenant au sérieux quelques assertions faites par celui qui dit « je » et qui se nomme Jean-Philippe. Mais peut-être que j'invente après tout, peut-être que ce type, aussi insignifiant soit-il, aussi négligeable soit son rôle dans cette histoire, n'a jamais existé, et que j'ai simplement inventé son existence pour donner un peu de piment romanesque à ce début de journée. Car même si c'est le réel que je romance, il est indéniable que je romance. Ou encore, j'avais le sentiment d'évoluer dans un paysage de fiction, comme si j'avais été le personnage d'un roman que j'aurais été en train d'écrire. Nous avons donc affaire ici à un auteur-narrateur à la première personne, homonyme de l'auteur du texte. Au travers de son statut d'auteur de roman, qui s'intitule « Fuir » ou « La vérité sur Marie », et moyennant multiples références à ses romans, ainsi qu'à certaines données extratextuelles, ce narrateur se présente comme un double de Jean-Philippe Toussaint. Cet auteur-narrateur fait le récit d'un voyage en Chine où il a pour projet de tourner le film « The Honey Dress », basé sur l'épisode qui ouvre le roman nu, et il se souvient de ses voyages précédents en Chine. Jusqu'ici, on pourrait encore s'attendre à se trouver face à une simple autofiction. Mais les choses sont plus compliquées que ça. Les souvenirs des différents voyages se superposent, les coordonnées temporelles ne sont plus fiables, la suite des événements devient de plus en plus confuse. À plusieurs reprises, l'auteur-narrateur commente lui-même ce désordre. Ainsi, à un moment donné, il parle de trois interactions qui seraient en mesure d'expliquer le livre. Une interaction entre le passé et le présent, une interaction entre la réalité et la fiction, et une troisième interaction plus intrigante encore que les autres. Je cite « l'interpénétration en temps réel de la scène que j'étais en train d'écrire et du monde extérieur ». En analogie à la physique, où on dénombre quatre interactions fondamentales expliquant rien moins que tous les phénomènes de l'univers, notre narrateur JPT, comme j'aimerais l'appeler pour simplifier, prétend ici, et à plusieurs reprises encore, pouvoir expliquer la structure de son univers à lui, c'est-à-dire du livre qu'il est en train d'écrire. Il se met lui-même à interpréter la fiction romanesque, de laquelle il fait pourtant partie. Cela produit, bien évidemment, des effets métaleptiques. Lorsque JPT déclare être en train d'écrire une scène dans laquelle il apparaît en personne, la dimension performative n'est que purement structurelle, car ce JPT fait lui-même partie du roman, ou bien tout simplement du livre, peu importe ici, que nous tenons réellement entre les mains. Ce phénomène de l'intrusion de l'auteur dans la fiction fait penser à un roman d'un autre auteur, lui aussi de minuit, auquel il est fait allusion à plusieurs reprises dans Made in China, Alain Europe Grillet. Lorsque Sheng Tong, l'éditeur chinois des deux auteurs, annonce à Toussaint la mort d'Europe Grillet, on est tenté d'y voir un petit clin d'œil ironique. Encore une annonce de la fameuse mort de l'auteur, et ceci dans un roman qui fête, pour ainsi dire, la présence de l'auteur dans sa fiction. C'est un de ces soirs, à la fin d'une nuit de tournage, à plus de 2 heures du matin, que Cheng Tong m'a appris la mort de Rob Grier. On pense notamment à la reprise de Rob Grier, parue en 2001, en lisant Made in China, roman qui raconte d'une façon assez complexe une histoire d'espionnage qui se passe à Berlin, dans lequel se mêlent histoire et temps présent, réalité et fiction, et où des moments clés de romans précédents de Rob Grier sont justement repris. Dans le texte de Rob Grier, la voix du narrateur principal est doublée par celle d'un second narrateur qui commente, corrige et conteste le récit du premier dans les notes de bas de page, ce qu'il fait de manière de plus en plus manifeste, voire violente, au cours du roman. À un moment donné, c'est pourtant la voix de l'auteur qui se fait entendre. Le récit premier est interrompu et on est projeté de l'année 1949 dans laquelle se déroule l'action à Berlin, à la fin de l'année 1989, année durant laquelle un grand orage avait dévasté réellement une partie de la Normandie et, entre autres, les arbres situés devant la fenêtre de la pièce dans laquelle, assis derrière son bureau, Rob Grier était en train d'écrire un roman, ce même roman dans lequel il fait maintenant son apparition. À gauche comme à droite de ce vaste bureau en acajou, dont j'ai décrit ailleurs la pompeuse ornementation napoléonienne, de plus en plus envahie sur chaque côté par les piles sournoises des paperasses existentielles s'accumulant en strates, je laisse désormais clos toute la journée les volets des 3 fenêtres qui donnent sur le parc, au sud, au nord et à l'est, à l'ouest, pour ne plus apercevoir le désastre obscur où je vis depuis l'ouragan qui a ravagé la Normandie juste après Noël, marquant d'une manière certes inoubliable la fin du siècle et le mythique passage à l'an 2000. Tout d'un coup, à l'intérieur même de la fiction, on se retrouve dans la maison de Rob Grier en Normandie et l'auteur-narrateur évoque l'ampleur des dégâts que le lecteur réel est susceptible de connaître, car Rob Grier en a lui-même parlé dans des interviews et les a même documentées à travers des photographies. Et l'auteur-narrateur profite de l'occasion de son intrusion abrupte dans la narration pour commenter brièvement son projet de reprise. J'ai souvent parlé de la joyeuse énergie créatrice que l'homme doit sans cesse déployer pour reprendre le monde en ruine dans des constructions nouvelles. Et voilà que je me remets à ce manuscrit après une année entière de rédaction cinématographique entrecoupée de trop nombreux voyages, quelques jours à peine après la destruction d'une part notable de ma vie, me retrouvant donc à Berlin après un autre cataclysme, portant une fois de plus un autre nom, d'autres noms, faisant un métier d'emprunt, muni de plusieurs faux passeports et d'une mission énigmatique toujours prête à se dissoudre, continuant néanmoins à me débattre avec obstination au milieu de dédoublements, d'apparitions insaisissables, d'images récurrentes dans des miroirs qui reviennent. Au premier abord, on pourrait interpréter ce passage comme un simple effet autobiographique résultant d'une pause dans la narration. Mais l'effet se caractérise par une portée plus grande. C'est un auteur qui reprend son manuscrit et adopte une fois de plus le rôle du narrateur. Il s'agit évidemment d'une métalepse, c'est-à-dire d'un changement des niveaux narratifs rendu explicite dans la formule « et voilà que je me remets à ce manuscrit », me retrouvant donc à Berlin, après un autre cataclysme portant une fois de plus un autre nom, d'autres noms. Les frontières entre réalité et fiction, ainsi que la distinction entre auteur et narrateur, sont ici sapées, minées. Et pourtant, ce sont justement ces distinctions sur lesquelles repose l'effet provocatoire de ce passage. Comment ne pas voir dans cette constellation une affinité avec Made in China ? En effet, dans un roman qui traite notamment du rôle du hasard dans l'acte créateur, dans la production littéraire, comme c'est le cas de Made in China, dans un tel roman, on est enclin à ne pas voir un hasard dans le fait que, lors d'une conversation avec Cheng Tong, dans laquelle on revient sans cesse sur le mot « Normandie », même la maison de Rob Grier en Normandie est évoquée par JPT. J'avais commencé par essayer de rattacher cette Normandie à Rob Grier. Je savais que Rob Grier possédait une maison en Normandie et, comme le sens de la conversation était que Cheng Tong avait fait une visite en Normandie, je supposais que c'était à Rob Grier qu'il avait été rendre visite. Cette hypothèse se révèle pourtant être une erreur. Washington avait visité les locaux de l'imprimerie des éditions de Minuit en Normandie. Des références à Robe Grillée, on en trouve pourtant aussi dans d'autres romans de Toussaint. Et si on peut identifier dans le motif du ressassement de la reprise une convergence entre la reprise et Made in China, ceci s'appliquait auparavant également au roman La vérité sur Marie. Ce fait indique déjà que Made in China est peut-être moins un livre sur les voyages en Chine ou sur le rôle du hasard, mais bien plutôt un livre d'adieu, d'un adieu nostalgique, l'adieu à Marie et au cycle de Marie. Si, chez Robe Grillée, la figure de l'auteur restait en tant que telle étrangère à la diégèse du roman, à l'histoire racontée, ceci n'est évidemment pas le cas dans Made in China. JPT est l'auteur narrateur-personnage du roman qu'il est fictivement en train d'écrire. On a donc là aussi bel et bien affaire à une métalepse. Mais, qui plus est, cet auteur-narrateur est complètement imprégné de la fiction dont il revendique être le créateur. Je change un peu la perspective, vous voyez. Mais, en outre, même sa perception en tant que jeune narrateur, c'est-à-dire indépendamment de son statut d'auteur, est imprégnée du cycle de Marie. En voici un exemple. Dans Made in China, la recherche d'un lieu adéquat pour le tournage du film The Honey Dress occupe une place assez large dans la suite des événements. JPT est d'autant plus soulagé lorsqu'il a enfin trouvé le bon endroit. Je m'arrêtais un instant devant la baie vitrée. Je regardais la ville à l'horizon qui s'étendait dans la brume et je me sentais apaisée. Dès que j'avais mis un pied dans cette salle, j'avais compris que j'avais devant moi le décor de mon film. Je savais maintenant, de façon infaillible, que c'était ici qu'il fallait tourner The Honey Dress. Pourtant, le lecteur du livre s'est rendu bien plus tôt compte de quel serait le bon, voire l'unique décor possible pour le tournage du film. Presque depuis le début, on sait, pour ainsi dire, ce que JPT cherchait, et ceci précisément à partir de la scène dans laquelle JPT dirige pour la première fois ses pas vers les vitres de sa chambre d'hôtel. En sortant de la salle de bain, je m'attardais un instant dans la chambre en peignoir de bain. Je m'arrêtais devant la baie vitrée et je regardais la ville qui s'étendait devant moi dans la nuit. Je regardais fixement ce paysage urbain illuminé et je le voyais comme à travers un voile de temps que j'aurais pu soulever pour retrouver, derrière les néons qui chatoyaient aux devantures des hôtels, des images plus profondément enfouies dans ma mémoire, moins colorées, de ce même quartier 15 ans plus tôt. Cette vue-ci, on ne la connaît que trop bien. Depuis le tout début de Faire l'amour, le premier volume du cycle de Marie paru en 2002, donc effectivement 15 ans plus tôt. La scène se déroule dans la toute première nuit à l'hôtel de Tokyo. Vous la connaissez tous. Aucun de nous n'avait encore allumé de lumière dans la chambre, ni le plafonnier, ni la lampe de chevet, et par la grande baie vitrée de la chambre d'hôtel, on apercevait au loin le quartier administratif du Shinjuku, illuminé dans la nuit. Jean-Philippe Toussaint lui-même parlait à propos de cette scène de l'image fondatrice de Faire l'amour et soulignait que le livre s'était construit à partir de cette image. Dans Made in China, l'idée de tourner la scène de la robe en miel pendant la nuit dans une pièce vitrée donnant sur la ville vient soudainement à JPT lors de la visite d'un premier décor. Et il note dans son carnet, tourné de nuit, tout content de sa première vraie décision de mise en scène pour le film. Est-ce qu'on peut prendre cela au sérieux? Est-ce que ce passage ne met pas justement en scène la différence entre JPT et le vrai Toussaint? S'agit-il d'un hasard ou d'une construction bien méditée? De toute façon, au sein de la fiction, JPT, tout en étant auteur, n'a évidemment rien compris. Que sa perception de la réalité fictive est imprégnée du cycle de Marie est manifeste dans ce qu'il raconte. Ce dernier détermine ses propres pas sans qu'il ne s'en rende compte. Il lui fallait, pour ainsi dire, d'urgence et sans aucun doute un tel décor. L'ambiguïté entre ce que l'on contrôle et ce qui échappe lors de la création littéraire est pour ainsi dire doublée dans Made in China. Des fois, JPT verbalise ses fantasmes de toute puissance de façon explicite. Ceci est par exemple le cas dans une scène d'attente d'une voiture devant l'hôtel. Je pourrais très bien, si je voulais, la faire arriver à l'instant même, cette voiture. J'ai ce pouvoir magique, c'est le pouvoir de la littérature. La faire apparaître maintenant et la laisser se garer en douceur devant moi, devant nous. Et quelques moments plus tard, respectivement quelques pages plus loin, il prétend « Je n'avais aucune idée du type de voiture que nous attendions. » Ici, on peut reconnaître toute l'ambiguïté de savoir ou de ne pas savoir. L'oscillation entre la toute-puissance et l'inconscience, mais aussi l'ambiguïté dans la répartition des rôles entre auteur et personnage, créateur et création. Un autre effet d'imprégnation, d'infiltration, se fait remarquer dans un rapport qui est établi entre l'auteur-narrateur de Made in China et le narrateur à la première personne du cycle de Marie, ce dernier ayant de plus en plus fait preuve d'un fantasme de toute puissance. On se souvient des passages dans lesquels le narrateur racontait de façon très détaillée ce que Marie avait vécu lors de son absence, sans se soucier de la vraisemblance narrative. Dans La vérité sur Marie, surtout, on avait l'impression que l'auteur, pour une fois réel, avait délégué son pouvoir de disposer librement des personnages, des événements et de la perspective narrative à son narrateur. Maintenant, dans Made in China, on a l'impression que le narrateur anonyme de la tétralogie projette son ombre sur JPT. En même temps, celui-ci semble être conçu comme un pendant de celui-là, mais entreprenant et actif. D'une part, on ne peut pas toujours s'empêcher de penser que c'est le narrateur du cycle de Marie qui continue à raconter, à développer le récit. Les mêmes lieux, les mêmes voyages, les mêmes décors, les circonstances d'épisodes de la tétralogie sont évoqués et la robe en miel n'est que la réminiscence la plus évidente. Par contre, le narrateur, si c'était lui, deviendrait enfin actif. Tandis qu'il nourrissait son identité en grande partie à partir du récit qu'il faisait de Marie et des vicissitudes de leur amour, le narrateur de Made in China, JPT donc, fait avancer son propre agenda, ressemblant en cela à Marie, qui, elle, se voit remplacée par Madeleine, qui, de sa part, ne poursuit aucun agenda, mais à laquelle il est plusieurs fois fait allusion. Ce désordre rend les choses évidentes. JPT ne peut pas lâcher le cycle de Marie. Et il ressemble en cela de nouveau au narrateur de Marie, qui ne pouvait pas lâcher Marie et leur amour. Un amour qui durera tant qu'on le raconte. À plusieurs reprises, Jean-Philippe Toussaint a déclaré qu'il se sentait proche des narrateurs de ses romans, voire de ses narrateurs. Et dans une interview lors de la parution de Made in China, il s'est prononcé comme suit. J'aime le mot narrateur et sa suave réminiscence proustienne. En général, les narrateurs de mes livres, je les connais intuitivement. Ils partagent avec moi les relations qu'on entretient avec son ombre, extension de nous-mêmes qui se déplace sans qu'on y pense. Mais dans Made in China, le statut romanesque de celui qui dit je est beaucoup plus ambigu. Il porte le même nom que moi, et ce qui arrive dans le livre m'est réellement arrivé en Chine. Et pourtant, je le traite comme un personnage de fiction qui a une liberté romanesque que seule l'écriture gouverne. Avec Made in China, Toussaint s'est donc créé son double qui lui permet de rentrer dans la fiction, de faire encore une fois revivre le cycle de Marie, tout en restant, en tant qu'auteur réel, étranger à la fiction. Espérant qu'il ne partage pas trop les fantasmes de toute puissance dont son double fait preuve, lui qui se pose des questions concernant le contrôle absolu de son œuvre et semble craindre des menaces pour la toute puissance de son statut d'auteur. Cette prétention à une toute puissance, JPT la partage avec le narrateur du cycle de Marie qui devenait de plus en plus envahissant, voire presque violent face à Marie. Si l'on pouvait, dans La vérité sur Marie, encore avancer que l'instance auctoriale déléguée pour ainsi dire son pouvoir au narrateur, c'est maintenant l'auteur-narrateur qui adopte certains traits du narrateur de Marie, parmi d'autres son penchant, ne serait-ce que subconsciente, pour les baies vitrées donnant sur la ville nocturne. Pourtant, d'un autre point de vue, JPT a bien évidemment supplanté le narrateur de Marie et pris sa place. Ici, on pourrait encore établir un parallèle avec la reprise d'Europe criée, où le second narrateur évoluant en bas de page et jouissant donc d'une certaine autorité auctoriale, liée au statut paratextuel des notes, supplante de plus en plus le premier narrateur, dont il constitue pourtant un revenant. En guise de conclusion et d'une façon plus générale, on pourrait se demander comment il faut concevoir la relation entre, d'un côté, la fiction d'un récit oral produit par un narrateur et, de l'autre côté, le fait qu'un tel récit est rédigé à l'écrit, le livre qu'on tient à la main, et ceci par un auteur extratextuel bien réel. À qui attribuer, par exemple, la mise en paragraphe du récit de la salle de bain et la numérotation de ces paragraphes? Et à qui attribuer le rythme des phrases, voire la ponctuation? Selon le fameux constat de Genette, cela semble être une question simple. Un récit de fiction est fictivement produit par son narrateur et effectivement par son auteur réel. Entre deux, personne ne travaille et toute espèce de performance textuelle ne peut être attribuée qu'à l'un ou l'autre selon le plan adopté. Mais est-ce que ce ne sont pas justement les interférences entre ces deux instances dans la production d'une narration fictionnelle qui nous fascine? Ainsi, les paragraphes numérotés de la salle de bain sont, en tant qu'éléments paratextuels, bien produits par l'auteur. Pourtant, ils structurent le récit du narrateur et sont les signes visuels d'une certaine tonalité propre à ce narrateur, en ce qu'il est en même temps différenciable d'autres narrateurs sortis de la plume de Toussaint. Je ne peux malheureusement pas plus développer ce point-ci, mais je pense que de telles questions se posent autrement depuis Made in China et que les effets de ces interférences échappent, j'espère, à la toute-puissance auctoriale. Une raison de plus de nous pencher là-dessus lors d'une prochaine rencontre. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier bien évidemment tout particulièrement Jean-Michel Devesa pour son accueil, pour l'organisation de ce très beau colloque, et puis pour plus personnellement pour l'occasion qu'il m'a donnée de découvrir l'œuvre d'un auteur que je ne connaissais pas. Jean-Philippe Toussaint, je confesse mon ignorance. Et grâce à lui, je suis rentré avec ravissement, je reviendrai sur ce terme, dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Vous aurez compris, première confidence, donc je ne suis pas spécialiste de Jean-Philippe Toussaint et que je ne suis pas non plus, a fortiori, spécialiste de littérature contemporaine. Je pousserai un petit peu plus loin la confidence dans quelques instants. Membra dissecta, ou le corps du texte. Pour un lecteur néophyte et non spécialiste, je vais explorer l'hypothèse un peu facile, simplificatrice, d'une disposition policière, dirais-je, en calquant bien évidemment l'expression de Jean-Philippe Toussaint, disposition océanique à propos de Marie, d'une disposition policière de son régime d'écriture. Un régime d'écriture qui emprunterait, sur un certain nombre d'éléments, pour quelqu'un qui rentre une première fois dans son œuvre de manière un peu visible, à l'écriture du roman policier ou d'autres choses équivalentes. J'ai essayé de résumer par l'expression membra dissecta, où le corps du texte, ce sentiment distillé que quelque chose fait intrigue et qui m'intriguait, d'autant plus que, effectivement, c'est d'autant plus marquant que c'est un récit qui est parfois volontairement dépouillé, dans lequel il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc j'ai essayé d'explorer les liens avec un roman policier en notant de prime abord des violences à venir, des méfaits, une mort annoncée, d'une telle façon que parfois elle apparaît suspecte, mais avec un problème. L'objet du crime, le corps du crime, n'y est pas. Comme si on l'avait escamoté, au mieux, ou démantelé, au pire. D'où cette expression latine bien connue de membra dissecta, les membres éparpillés. C'est là que je pousse un peu plus loin la confidence. Non seulement je ne suis pas contemporaniste, mais je suis latiniste. Nombre d'entre nous ici l'ont été, le sont peut-être encore, mais je ne suis pas convert. Latiniste avec une insistance peut-être coupable même. Et on sait bien que perseverare diabolicum. Cette confidence faite, j'ai l'impression de me retrouver dans la position du narrateur au Contemporary Art Space quand il observe l'assistance, subrepticement de manière interlope, par le hublot ménagé dans le toit. Et vous de me regarder, je le vois bien au moment présent, avec l'air interrogateur, un peu soupçonneux. Vous demandez à quoi peut bien servir un latiniste, de manière générale, ça c'est une certitude, et plus particulière dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Ce latiniste essaiera d'apporter quelques éléments à cette énigme, une de plus, qui s'est trouvé intrigué, le latiniste, pas l'énigme, happé, emporté loin de soi, avant d'y être ramené in fine par son ravisseur. Commençons par le plus évident et ce qui m'a sauté aux yeux, la disposition policière de l'écriture. Il ne s'agit pas de sous-entendre, bien évidemment, Jean-Philippe Toussaint écrirait des romans policiers, il y a bien trop d'éléments qui prouvent que ce n'est pas le cas, et en ces cas-là, j'apparaîtrai spontanément l'assassin de ma propre communication dès le départ. D'abord, il n'y a pas de résolution, jamais, ou presque, j'y reviendrai. Et puis, bien sûr, le roman policier fait œuvre sociologique, pour une bonne part, assez souvent. Or, ici, il n'est pas question d'analyse critique de la société, d'ancrage sociologique, et sans doute parce que cette société, qui peut être à dominante mondaine, n'a pas de compartimentation très définie, liée qu'elle est à une mondialisation qui est accomplie. Pour autant, tout un réseau d'éléments font signe vers le roman policier, le polar, le roman noir, le roman d'espionnage, et contribuent, comme j'ai l'impression, à tisser une connivence avec le lecteur. Et c'est peut-être ici, comme on en parlait initialement, un des processus qui permet à Jean-Philippe Toussaint de séduire son lecteur. Car séduire, avant toute chose, c'est se savoir se faire reconnaître. Dans les titres d'abord, il est souvent question de l'énonciation d'une vérité et donc en négatif d'un mystère. La vérité sur Marie, c'est clair. Mais le mystère, quand on le dévoile, devient nu. Encore faut-il qu'on accepte d'en parler. Et dans ces cas-là, on est soumis à une réticence. Aller voir Biagi, bien sûr, c'est cette réticence principale du roman. Mais le sème de l'oralité, nos réticences, me semble bien plus fort, bien plus important. Omission volontaire de ce qui pourrait ou qui devrait être dit, nous dit le CNRTL. C'est aussi l'omission d'un fait que l'on est dans l'obligation de révéler, en termes juridiques. Cette impression, suggérée par les titres, se confirme dans les intrigues. Qui a tué le chat noir? Qui ne dit pas tout? Qui a disparu? Moi, même, parfois, dit-il. Cela se confirme dans les objets, les décors, la symbolique des couleurs, une certaine disposition psychologique et intellectuelle. Dans les objets, par exemple, ce flacon d'acide chlorhydrique, le leitmotiv de faire l'amour et qui ouvre le cycle de Marie, et qui instaure inauguralement un climat de violence latente qui se dénouera, qui se dissoudra, devrais-je dire, avec le récit lui-même, et qui nous replace d'ailleurs, historiquement, presque, dans cette société de la fin du XIXe siècle où le vitriolage était tant à la mode, phénomène qui de nos jours est très rare, mais qui garde un impact médiatique très très fort. Il suffit de regarder, de faire une petite recherche pour s'en rendre compte de suite, et qui nous place dans cette disposition policière, car elle nous rattache à l'émergence du genre policier de cette fin du XIXe siècle, et nous met aussi en contact avec un des ressorts principaux, la puissance passionnelle du geste. D'autres éléments, je passe vite dessus, la Mercedes grise d'enfuir. Non, dans la réticence. La voiture qui dissimule quelque chose, angoissante, avec son existence propre, tant et si bien qu'on la croit, est presque parfois sortie aussi d'un film fantastique. L'enveloppe Kraft d'enfuir, ce coup-là, avec de l'argent. Ou une substance à l'intérieur, qui serait de la drogue. Mais là encore, nous sommes à peu près seuls responsables de savoir qu'il s'agit de la drogue. J'y reviendrai. La vitre brisée d'enfuir, aussi, à l'intérieur du train. J'y reviendrai. L'appareil photo, dans l'appareil photo, qui entraîne le personnage dans une fuite digne d'un film d'Hitchcock. Ici, on n'est plus exactement dans un registre policier, peut-être, mais le film noir d'espionnage que j'évoquais précédemment. C'est aussi une disposition psychologique du narrateur qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les romans policiers. Premier trait, je pense, la sensation d'épuisement. Les héros, les enquêteurs, sont souvent des gens au bord de la rupture, fatigués d'une quête, une quête perpétuelle après l'assassin, qui est au fond une quête uniquement personnelle après eux-mêmes. Mais c'est aussi une disposition psychologique dans la manière où il y a chez ces enquêteurs une sorte de disposition océanique, comme chez Marie. Souvent, Et là, je prendrai par exemple ce commissaire que vous connaissez bien, Adamsberg, de Fred Vargas. Souvent, la puissance hypothético-déductive est remplacée par un sentiment poétique du monde, où il s'agit de faire rentrer en consonance des éléments entre eux fort disparates et qui ne font pas sens de prime abord. Ce régime hypothético-déductif est en base continue dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint depuis le début, Pythagore. Mais c'est un régime hypothétique qui fonctionne en semant des indices au fil du texte et qui m'a fait penser, par exemple, à un mode de fonctionnement similaire à celui de Vladimir Nabokov. L'intrigue est essentiellement policière chez Vladimir Nabokov. Policière au sens premier, parce qu'il y a quelque chose à résoudre, on pense spontanément à Feupal. Mais il y a aussi, comme par exemple dans Ada ou Glarder, en permanence, des signes, des indices qui s'accumulent pour construire une narration secondaire qui échappe, dans un premier temps, au lecteur et qui l'invite en permanence à revenir. Jean-Philippe Toussaint, donc, serait-il, comme Nabokov, au-dessus de l'épaule de son lecteur, à le regarder avec un léger regard narquois, un joueur d'échecs, tiens, lui aussi, en disant « Vas-tu bien comprendre tout ce que j'ai distillé ?» Je ne pense pas, parce que le régime hypothético-déductif étant estompé ou en mode dégradé. D'abord parce que, assez souvent, la logique du narrateur, il faut le dire, et ça nous amuse, est un peu plus faible que celle du lecteur. Dans la réticence, quand le narrateur dit enfin « Cet homme qui est dans le jardin de Biagi, et si c'était le jardinier ?» À ce moment-là, le lecteur se sent flatté, parce qu'il avait avancé déjà. C'est aussi un mode hypothético-déductif dégradé parce que les personnages disparaissent et de manière angoissante. Je n'en citerai qu'un, la jeune femme diplomate qui accompagne le narrateur et Marie à l'espace contemporain d'en faire l'amour. Et le narrateur, au moment de la fin de la scène, dit « C'était la dernière fois que je le voyais, je ne le savais pas encore. » Et d'un seul coup, nous voilà soumis à un stress pour se demander ce qui se passe et pourquoi il faut signifier que ce personnage disparaît. On n'en saura rien. Autre exemple de ce régime dégradé de la déduction, la vitre brisée dans le train, que j'ai évoqué tout à l'heure, d'enfuir. Trois temps distincts. Le constat, la vitre brisée, le sang, le témoignage de la violence. Deuxième temps, un jeune homme apparaît, couvert de sang, entouré de policiers, malmené par une femme qui le menace de son talon aiguille. Manifestement, il s'est passé quelque chose. Troisième temps, C'est non loin de ce lieu que se noue et se dénoie la relation avec Ichi, et surtout que la mort fait sa véritable apparition en la mort du père de Marie. Mais aucun lien n'est fait à aucun moment entre ces éléments dans le récit. Une fois que tout ça a été dit, je n'ai peut-être pas démontré autre chose que finalement que Jean-Philippe Toussaint s'inscrit parfaitement dans le catalogue des éditions de Minuit. Et la tradition de tous les auteurs qui ont été cités précédemment. Butor, Rob Grillet, Jérôme Lindon, lui-même, puisque on sait, et je l'ai appris grâce à Benoît Peters, que lui-même avait écrit des romans à connotation policière, en tout cas avec cette coloration policière. Poursuivons l'enquête néanmoins, si vous le voulez bien. Parce qu'une fois que Jean-Philippe Toussaint a tissé cette connivence avec son lecteur, il incite à aller bien évidemment au-delà. Poursuivons l'enquête dans l'un des ouvrages où surabondent, selon moi, les différents marqueurs de cette disposition policière. Ce roman, je n'hésiterai pas à le dire, c'est la réticence. Et c'est à ce moment-là que, levez la tête, le latiniste réapparaît par le hublot, avec toute la prétention d'un petit Hercule, plutôt Poirot que Farnèse, pour vous entretenir de ponctuation et de syntaxe, parce que là, pour le coup, c'est son domaine, et c'est tout un pour lui. La réticence. Délicat d'en faire pourtant de vouloir en faire un modèle, alors que c'est celui qui, fait, et on l'a entendu de nombreuses fois, a rencontré le moins de succès, c'est celui qui a demandé le plus, qui a été le plus douloureux, et qui, de fait, peut-être semble le moins achevé. A fortiori, donc, comme je disais, le plus douloureux. Tout le pointe comme un coupable idéal. Tellement d'ailleurs pointé des yeux qu'il en finit par devenir presque la lettre volée d'Edgar Allan Poe. On ne le voit plus. Une énigme l'habite. Et hier, j'ai découvert avec stupéfaction qu'elle pouvait être aussi une part de cette énigme. Chercher la femme, dit-on dans le roman policier. Une énigme l'habite, qui se dénoue en apparence, pourtant, qui est celle du chat. Mais elle était telle que manifestement, cette énigme, il a fallu plusieurs années pour que Jean-Philippe Toussaint s'en défasse. Et c'est là que Hercule Poirot aimerait bien lui braquer sa langue dans les yeux pour lui demander, non pas qui es-tu, Jean-Philippe, monsieur Jean-Philippe Toussaint, mais que cachez-vous, monsieur Jean-Philippe Toussaint ? Quel est ce ray inaugural de réticence dans lequel vous cherchez à nous perdre ? Est-ce dans cette intrigue à trois personnages dans laquelle, ne la cherchez pas, il n'y a pas la femme, et pourtant elle est bien là, qui se noue entre Biagi, le narrateur, et le chat ? Biagi, cet auteur qui hante l'hôtel avec le bruit de sa machine à écrire, avec des habitudes de travail, qui construit son hôtel un petit peu comme Jean-Philippe Toussaint, et qui nous rappelle Jean-Philippe Toussaint par ses habitudes. Biagi, cet auteur qui, selon le narrateur, a tué le chat. Tant et si bien que le narrateur rêve de se défaire de Biagi et finit par transformer Biagi en chat dans un long rêve développé par une longue phrase qui se déroule sur presque trois pages et dans laquelle, finalement, on voit apparaître une première personne qui nous indique que c'est bien le narrateur qui, dans le fantasme, tue Biagi. Qu'est-ce que c'est que ce narrateur, sinon un personnage narrateur, peut-être, qui se sent trop épié par un auteur, et un personnage qui essaye de préserver sa propre existence, grise et indéterminée, et qui essaye de lutter au fur et à mesure qu'il se dégage de sa gangue, en essayant finalement de faire disparaître, peut-être, le propre auteur lui-même. Et ce qui m'intéresse, et ce qui a retenu l'attention du latiniste, c'est dans cette page 97, dans les pages 97 à 99, extrait trop long pour que je le lise, c'est l'emballement syntaxique qui est lié au rêve et à cet assassinat. Cet emballement syntaxique se caractérise par une juxtaposition de propositions subordonnées plus d'une demi-douzaine de fois, des qui reviennent, et qui sont scandés, soudés les uns aux autres, avant de finir en bouclant, et je reviendrai également là-dessus, sur la révélation de qui a véritablement tué Biagi dans ce rêve, à savoir le jeu. Cet emballement syntaxique, avec la multiplication des subordonnées, se double d'un autre trait d'écriture, omniprésent, obsédant à l'intérieur de la réticence, dont on a déjà parlé, qui est l'hyperbate entre le pronom relatif et son antécédent. Hyperbate, on a prononcé ce nom au tout départ, c'est Jimmy qui nous en a parlé, en nous évoquant le tiret. Le tiret qui permet justement de faire la pause dans le récit pour énoncer des hypothèses et pour essayer de faire avancer la résolution de quelque chose. Eh bien, ici, c'est ce qui définit, à mon sens, cette hyperbate qui est apparue dans les romans précédents, mais qui prend ici une place tout à fait remarquable. Cette hyperbate permet de rendre compte d'un décalage, d'un écart qui se creuse et qui traduit un moment de peut-être de panique. Je lirai juste un extrait symptomatique qui est le moment où le narrateur se retrouve dans la chambre d'hôtel avec son fils et a vu partir le pêcheur en barque vers l'île et attend le retour de ce pêcheur et attend donc la scène et ce qui va déboucher sur le fait qu'à un moment il y aura quelqu'un derrière la porte et que ce quelqu'un derrière la porte ne peut être autre que la personne fantasmée du pêcheur. Et en attendant, il regarde son fils jouer. Il dit « Mon fils était réveillé maintenant que j'entendais gazouiller derrière moi dans la chambre. Et je me retournais de temps à autre pour le regarder jouer dans son lit de voyage qui s'amusait avec la vieille sandale en plastique que nous avions trouvé sur la plage quelques jours plus tôt, qu'il était en train d'essayer de plier en deux sans succès, le visage concentré et les petites lèvres serrées par l'effort. » À mesure que l'angoisse augmente, cette hyperbate s'intensifie. Et elle s'intensifie par la syndète. On voit que sont juxtaposés, et là, effectivement, le latiniste sort de ses gonds, puisqu'il n'a cessé de répéter à ses étudiants qu'on ne pouvait pas juxtaposer ainsi, de cette manière-là, des pronoms relatifs qui, parfois, même n'ont pas les mêmes antécédents. La langue est tordue à ce moment-là, volontairement. Alors, bien évidemment, cela renvoie au procédé classique de la langue française, et plutôt à une langue française classique, héritée en droite ligne du latin. Mais on voit que l'hyperbate, dans l'extrait que je viens de lire, ne sert pas qu'à creuser des écarts, ou qu'en tout cas, Elle permet de rendre compte de toutes les virtualités, de toutes les potentialités que recèle un écart. Je dirais, en listant tout ce que j'ai entendu, c'est très facile de parler ce jeudi matin, ce que j'ai entendu au fil du colloque, que cette figure de style, finalement, et cette antéposition, cet écart, cet hyperbate entre le pronom relatif et son antécédent, met en scène les écarts permanents, successifs du régime d'écriture. Si je voulais les lister rapidement, j'en relèverais six. Le premier, d'abord, cet écart génère un potentiel déséquilibre et donc maintient le risque potentiel de voir tout s'effondrer, sensation qui nous accompagne assez régulièrement dans l'écriture. Deuxième temps, cet écart crée une béance qui permet d'enfouir ou de perdre, et en l'occurrence peut-être des codes. Troisième virtualité, elle crée une distance. Et là, bien évidemment, je pense à l'intervention hier de Warren Mott. Elle permet aussi, cet écart permet également de constituer deux pôles générateurs d'une tension, de permettre une circulation, des variations d'intensité et donc des accélérations ou des oscillations dont on a parlé tout à l'heure. Elle permet aussi ou impose de penser de manière discrète, infinitésimale, intégrale, une continuité. Et je boucle avec l'ouverture de Jean-Michel. Enfin et surtout, et dans l'extrait que je viens de lire, c'est très visible, elle permet une coïncidence en rassemblant, en embrassant les deux termes. Puisque finalement, la phrase que j'ai lue précédemment commence sur mon fils et se termine également sur mon fils. De la coïncidence naît le sens. Les deux extrémités coïncident. De la coïncidence naît le sens et se découvre le mobile. Bien sûr, si dans un roman policier classique, le narrateur finit par déplier l'intrigue, en apparence seulement, et là, nous dira notre ami Pierre Bayard, je reste prudent, si le narrateur déplie l'intrigue et en dissipe les mystères, Jean-Philippe Toussaint lui met tout en œuvre pour que ce dépliement soit l'œuvre et la responsabilité de son lecteur, comme dans l'histoire du train d'Enfuir. Les relations, les déductions sont de la responsabilité du lecteur. Ce lecteur est appelé à déplier sans fin un texte dans les replis duquel quelque chose gît de terrible. Une disparition ou un disparu. Et ça le met à la recherche perpétuelle d'un mobile qui lui échappe, délaissant les mêmes bradiciecta pour un perpétuum mobile. J'aurais aimé mettre une petite apostille pour conclure cette parodie d'enquête policière qu'est cette communication, mais je vois que le temps est écoulé.
Je me suis demandé, dans la suite de ce qui vient d'être dit, cette atmosphère de roman policier m'a donné envie de travailler sur la notion de suspense. Et je me suis demandé s'il y avait, même dans le récit de quelque chose de rétrospectif, de quoi alimenter la curiosité du lecteur. Comment créer du suspense, à la fois sur un temps aussi rempli que celui de la fuite, mais aussi sur un temps plat. Alors, je commence d'abord par dire que je voudrais... dire un mot pour Yun Soon Lime, qui est mon amie qui est décédée, qui est une écrivaine belge, et dont je vous incite à lire les livres. Donc c'est à sa mémoire que je pense aujourd'hui, parce qu'elle est décédée il y a peu, et c'est une écrivaine belge dont j'espère qu'elle va être très connue. Donc je vous incite à lire Les Candidats, Amsterdam, 1993, etc. Et c'est aussi une critique qui a beaucoup travaillé sur Blanchot. Alors, je reviens donc à ma question, du suspense à la rétrospection, comment créer de l'intensité dans la narration. Je me suis principalement donc intéressée à Fuir en me demandant comment, dans ce livre, il y avait une tension qui traversait l'ouvrage de bout en bout. L'écriture même est celle d'une période d'exaltation, comme le confie l'auteur, qui vectorise toute sensation et qui tient le lecteur continuellement en haleine. Comment alors passer à des écritures éloignées de la passion et adopter un point de vue rétrospectif ? Dans des textes qui sont un petit peu à tendance autobiographique, comme celui né de l'enthousiasme d'enfance du football, 2015, ou dans la manière d'envisager un retour plus posé sur le passé, dans l'expérience dans le livre Made in China de 2017, quel rapport au temps surgit, où cette fois-ci on a un temps plus étal, mais où la topographie permet de froisser les lieux et de les mettre en contact au-delà de la pure chronologie. Donc il s'agit de tension ou de détente, de temps vectorisé ou plat. Comment la narration s'y prend-elle pour susciter l'intérêt du lecteur ? Je tenterai d'abord de justifier pourquoi il me semble important qu'on parle du lecteur, parce qu'il est inscrit dans le texte comme une sorte de double du personnage narrateur. Ensuite, dans un second temps, je me demanderai quelle forme d'intensité existe sous les espèces de la tension narrative. Alors, il peut s'agir de tension narrative appelée suspense, c'est le plus classique, surtout dans le roman policier, mais aussi de tension thématisée, quand les personnages se mettent à se chercher les uns les autres, quand le narrateur parle de la tension du jeu dans le football, dans le bowling, c'est-à-dire des moments où le temps est suspendu, où on est entièrement absorbé par une expérience presque extatique. Et puis, tension énonciative, qui se lit dans un choix de vocabulaire et des indices qui, comme cela a été démontré juste à l'instant, incite le lecteur à avoir un sens caché, comme dans un roman policier. Et je terminerai enfin par l'énigmaticité du présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand le temps est plat. Autre solution pour que le lecteur reste addictif au texte, parce que quelqu'un a employé ce mot, on est addict, on est drogué par le texte, on a envie de connaître la suite. Et comment cela est-il possible quand il n'y a pas de fuite, quand il n'y a pas de recherche ? Alors je propose que c'est parce que le présent est totalement énigmatique, parce qu'il a une opacité, et du coup il devient intrigant et burlesque. Alors pourquoi les émotions du lecteur sont-elles prévues par le texte, et pourquoi la place du lecteur est-elle presque de être un double du narrateur ? Frank Wagner souligne que Jean-Philippe Toussaint recourt souvent à une narration de type extra-homodiégétique, c'est-à-dire que le narrateur primaire est présent comme personnage à l'intérieur de l'histoire. Sa figure est celle d'un personnage narrateur-auteur qui nous fait penser qu'il est un auteur, puisqu'il a un goût pour l'art, pour la littérature, et ce type d'intérêt incite le lecteur à penser que cet narrateur-personnage est aussi un auteur. Mais Frank Wagner écrit, en parlant donc des intrigues de Jean-Philippe Toussaint, que la narratologie traditionnelle ne permet pas d'en rendre compte, parce qu'il faut peut-être remplacer la conception statique de l'intrigue par une conception dynamique où le lecteur a un rôle à jouer. Alors pourquoi le lecteur aura-t-il un rôle à jouer ? On l'a vu, c'est que d'enfuir, en dépit de la restriction de champ a priori induite par une relation du lecteur au personnage homodiégétique qui raconte l'histoire, malgré tout, l'instance narrative restitue à plusieurs moments le point de vue, les sentiments et sensations de Marie. Donc le texte se développe toujours à travers la conscience médiate du narrateur, mais bien qu'il trouve là son origine, en fait, il nous décentre et nous conduit à l'intériorité de Marie. Un exemple, hein, dans l'extrait qui est affiché, Marie, je le compris au léger chaos qui se fit alors entendre dans le téléphone, s'était levée et elle quittait le Louvre, elle traversait les salles en direction de la sortie, silhouette vacillante, chancelante, ses doigts tremblaient, et la lumière du soleil lui brûlait les yeux. Elle accélérait le pas et tâchait de quitter au plus vite les 200 mètres en enfilade de la Grande Galerie. Que l'intériorité du texte soit, soit partageable dans le texte, nous en avons déjà l'intuition dans cette parallèle, c'est-à-dire cet ajout d'informations où le lecteur est à la fois le narrateur, je le compris au léger chaos, mais pas seulement, puisqu'il observe la jeune femme et que finalement, à force d'observer la jeune femme, donc la jeune femme focalisée devient à son tour focalisatrice lorsqu'on lit l'expression « la lumière du soleil lui brûlait les yeux ». Tandis que l'expression « elle accélérait le pas » correspond précisément à un point de vue offert par une convention de la narration, qu'elle soit rattachée à une subjective quelconque ou pas. Ainsi, la représentation donc, de la vie intérieure et de la vie extérieure sont en quelque sorte fondues l'une dans l'autre. Et cette vision et cette pratique, disons, est assez répandue, à la fois dans l'écriture de Jean-Philippe Toussaint, mais aussi, on la trouve chez Annie Ernaux, chez Jean Echenoz, etc. Pourquoi ? Alors, ça a été quelques hypothèses ont été formulées par Anne Banfield dans un ouvrage qui s'appelle « Phrases sans parole ». Je ne sais pas si j'ai mis la citation, peut-être pas. Non. Sylvie Patron, qui a édité aux presses universitaires de Vincennes le texte d'Anne Banfield « Phrases sans parole », dit qu'il peut exister une convention de narration qui rende compte de l'existence d'une subjectivité partagée parce que toute personne qui se serait trouvée là à ce moment-là aurait eu le même percept. Comment est-ce qu'on peut à la fois être subjectif et objectif ? Anne Banfield prend l'exemple de Russell. Si vous regardez le soleil à travers un filtre vert, vous voyez le soleil à travers un filtre. C'est-à-dire que vous avez une vision du soleil perspectivique, filtrée par cette lumière verte. Et toute personne qui regardera le télescope à ce moment-là aura cette même vision perspectivique, c'est-à-dire subjective. Et en même temps, comme c'est la vision de tous ceux qui regarderaient le télescope en même temps, c'est un point de vue à la fois perspectivique et partagé. Donc on a comme ça des passages où certains extraits peuvent être à la fois d'un narrateur-personnage, tantôt d'un personnage focalisateur qui supplante le narrateur primaire. Parfois, on a tout simplement un texte qui est émis par une voix narrative conventionnelle qui pourrait être celle de toute personne se trouvant à cet endroit-là. Donc pourquoi pas aussi celle du lecteur, qui est ainsi directement drainé à l'intérieur du texte. Mais il y a d'autres failles dans cette fusion du narrateur et du lecteur, parce que le lecteur est comme un enfant, il est totalement dépendant de ce que lui dit ce narrateur primaire. Pourtant, il y a des failles. On a vu la faille qui nous donne accès à l'intériorité de Marie, mais il en existe d'autres. La seconde est dûment cachée dans l'enterrement du père de Marie, alors que le narrateur, qui était à l'étranger, qui était parti en Chine et revenu pour assister à l'enterrement, a enfin retrouvé Marie lors de la cérémonie des obsèques à l'église. La narration se met à décrire longuement l'attitude de Marie, qui était venue à cheval pour assister à l'enterrement de son père. Elle, qui n'avait jamais fait de cheval, accompagne le corbillard au milieu des rues passantes. Donc, l'intérêt du lecteur se décentre vers la performance de Marie. Immédiatement après cette description de Marie à Cavalière, on trouve... Alors, j'avance. L'expression suivante. « Je ne sais pas quand Marie s'aperçut de mon absence dans l'église, car je n'étais plus dans l'église. » Alors, là encore, hein, entre deux tirés, « car je n'étais plus dans l'église », c'est comme si le narrateur faisait un constat sur lui-même en tant que personnage, comme extérieur à lui, comme s'il ne se gouvernait plus lui-même, car je n'étais plus dans l'église. Il se constate de l'extérieur comme n'étant plus dans l'église. « Si ce fut pendant le déroulement même de l'office, se retournant un instant pour me chercher des yeux et ne trouvant soudain plus que le vide entre les colonnes de marbre, à l'endroit où je me trouvais quelques instants plus tôt, un vide immédiatement saisissant, anormal, un vide froid, silencieux, inquiétant. Ou si c'est seulement plus tard qu'elle s'était rendue compte de mon absence, quand les portes de l'église s'étaient ouvertes à la fin de l'office. Peut-être n'était-ce qu'à ce moment-là qu'elle s'était inquiétée de mon absence, en ne me voyant pas venir la rejoindre près du cercueil, tandis que l'assistance commençait à se disperser sur le parvis, regardant avec détresse par-dessus les épaules pour me chercher des yeux, mais ne me trouvant plus, etc. » Là encore, le narrateur est là comme narrateur, mais il a disparu en tant que personnage et comme point de vue, puisque finalement, c'est la perspective de la vie intérieure de Marie qui se donne à lire. Le lecteur est donc cette fois-ci non plus avec la focalisation du personnage narrateur primaire, mais il n'en sait pas plus que Marie. Il n'en sait pas plus que le narrateur sur sa propre existence en tant que personnage. D'où le fait que, comme Marie, le lecteur s'interroge et se demande où est passé le personnage, pourquoi il n'est pas visible, pourquoi finalement il s'est esquivé du texte en tant que personnage. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a une expérience logique très étrange où un narrateur-personnage finit par se distinguer en deux ectoplasmes dont l'un ne sait pas où est passé l'autre. Voilà pourquoi l'intérêt, me semble-t-il, pour le lecteur se justifie, parce que finalement, il ne fait qu'un avec un narrateur primaire qui est sans cesse à la fois à la recherche de lui-même, de l'autre, etc. Et donc, il est aussi à la recherche, pourquoi pas, comme le lecteur. J'en arrive donc maintenant à la deuxième partie. Quelle forme d'intensité existe sous les espèces de la tension ? Alors, je me fonderai ici particulièrement dans ce travail sur Fuir, sur les travaux de Raphaël Baroni, dans La tension narrative, suspense, curiosité, surprise, un texte de 2007. Alors, Raphaël Baroni reprend un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le suspense et propose trois catégories différentes. Le suspense, ce sont les moments où l'on ne sait pas ce qui va se produire, et c'est de cette ignorance et du désir de savoir le futur que naît le plaisir du lecteur. D'autant plus lorsque l'issue de l'action est inconnue ou dangereuse, lorsqu'il y a une fuite, lorsqu'il y a un conflit, ou lorsqu'il y a quelque chose qui échappe. L'effet de suspense vient souvent du retardement, d'une certaine réticence de l'information qui a été à peine distillée par la narration. La question tourne autour de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. La curiosité, C'est plutôt un phénomène non pas qui porte sur l'histoire elle-même, mais plutôt sur la narration, la manière dont finalement le lecteur, connaissant déjà la fin de l'histoire, donc le lecteur qui n'est plus dans le suspense, s'intéresse cette fois-ci intellectuellement à l'explication permettant de comprendre pourquoi on en est arrivé à telle fin. C'est un peu le modèle du policier Columbo, hein, qui connaît déjà le meurtrier et qui essaye de savoir qui est le meurtrier. Parce qu'il y a une réticence, et donc c'est la narration qui a en quelque sorte tressé l'intrigue de telle manière que peu à peu on a envie de comprendre les tenants et les aboutissants. Enfin, dernier temps, c'est la surprise. C'est-à-dire que c'est le moment où le présent est inattendu, imprévisible. Les coups de théâtre, la réintégration de la réalité sont autant de moments où le lecteur va être pris à contre-pied par rapport aux hypothèses qu'il était en train de faire. Nous chercherons donc à montrer que l'intensité qui est créée chez Toussaint par ces différents phénomènes apparaissent de manière alternative. C'est-à-dire, tantôt, on a du suspense, tantôt, on est dans un phénomène de surprise. Nous ferons l'hypothèse que le suspense a lieu principalement lors des périodes de temps extrêmement tendues par l'intrigue, la fuite, etc. Et puis que la surprise, au contraire, sera présente comme manière de tendre le texte lorsque le temps est étal, lorsqu'on n'est pas vectorisé vers un but, vers la recherche de quelque chose. Alors, je commencerai par les différentes formes de tension narrative et le suspense. Qui sont les personnages Li Qi et Zhang Yangzi? Quelles relations ont-ils? Pourquoi le narrateur est-il téléguidé par Marie absente? Quelles sont les véritables activités de ces personnages? Bon. À d'autres moments, on ne sait... Vous voyez, j'ai donné un exemple là, de ce questionnement du narrateur, personnage plutôt, sur ce qui se passe. À d'autres moments, on ne sait même pas pourquoi on se promène dans Pékin. Au lieu de montrer les monuments magnifiques de Pékin, le Cicérone se contente de ratisser en permanence un endroit resserré, dont on comprendra après que si on fait du tourisme à cet endroit-là, c'est parce qu'on a un rendez-vous dans une station de métro tout près. Le passage insiste sur donc l'insignifiance de la promenade. Le lecteur se dit qu'il va arriver forcément un coup de théâtre, que l'insignifiant va prendre sens. Eh bien, pas du tout. C'est là où il y a une provocation, c'est-à-dire qu'on a provoqué une activité interprétative à tort. Ça tourne à vite et c'est ça qui produit finalement la sensation de plaisir de la part du lecteur qui s'est senti floué par le texte. Deuxième exemple, l'exemple de la curiosité. La curiosité existe aussi parce qu'on ignore parfois les intentions des protagonistes. Le narrateur attend Li Qi qui lui a donné rendez-vous dans la gare. Il est tout heureux de l'avoir arrivé. Et puis, brusquement, il se rend compte que dans son sillage, il y a le personnage de Zhangzi. Que faisait-il là? Avait-il simplement accompagné Li Qi à la gare? Certes, il n'y avait rien d'étonnant. Est-ce que Li Qi et Zhang Yangzi se connaissent? C'était même par lui que j'avais fait sa connaissance, mais je ne comprenais pas comment il avait été mis au courant de notre voyage. Et je fus encore plus désorientée quand Li Qi m'apprit qu'il venait avec nous à Pékin. Autre cas de cette manière de tendre l'intrigue, c'est cette fois-ci le suspense le plus classique. Et il existe lorsque la poursuite avec le petit paquet qui contient soit une étoffe précieuse, soit de l'argent, soit de la drogue, focalise toute l'attention du lecteur jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut le cacher dans un faux plafond, puis contre son corps. Les protagonistes échapperont-ils à la police? La fin est incertaine, et là, on a véritablement, comme l'a dit mon collègue juste avant, l'idée de roman policier, d'intrigue, de suspense, le plus classique possible. Mais on peut aussi avoir une tension qui ne réside pas cette fois-ci dans la mise en texte, mais plutôt dans la thématisation, c'est-à-dire que l'intense apparaît dans des moments de vécu. Moments du jeu de football, dans l'écrit autobiographique éponyme, moment du bowling, d'enfuir par exemple, ou sous les espèces de l'amour. Alors, l'attention dans le jeu, elle est très présente aussi bien d'enfuir que dans dans Made in China, non, dans football. Ni la fiction, ni la réalité, le jeu offre un univers parallèle dans lequel on se baigne en oubliant tout bonnement la réalité présente, parce qu'on est de part en part tendu vers le résultat qu'on essaye d'obtenir, et ce résultat dépend de notre action en tant que joueur. Et cela, on le trouve aussi bien dans le cycle de Marie, plus fictionnel, que dans les cycles plus analytiques, que dans le texte plus analytique, comme football. Jamais, comme au Japon en 2002, Je n'ai éprouvé une aussi parfaite concordance des temps, où le temps du football, rassurant et abstrait, s'était pendant un mois non pas substitué, mais glissé, fondu dans la gangue plus vaste du temps véritable, et m'avait fait ressentir le passage du temps comme une longue caresse protectrice, bienfaisante, tutélaire, apotropaïque. On a ici l'impression qu'on a du temps qui est comme suspendu, qui est à la fois intense et en même temps un temps protecteur. C'est pour cela que le match de football perd immédiatement tout intérêt dès qu'on connaît le résultat final. Dès que le fil invisible qui relie le football au passage du temps est rompu, dès qu'il est dépouillé de sa dimension d'irréversibilité, sa grâce et son éclat s'éclipsent aussitôt. Il n'est plus que la matérialité des joueurs, l'émergence du prosaïque, dit un peu plus loin le narrateur. Dans ce que nous observons là, se profile donc une forme d'intensité qui fait oublier la lassitude devant l'état du monde. Mais peut-on garder l'intensité en remontant par la pensée la flèche du temps, en revoyant le match ? Non, répond le narrateur de tout ça, il n'y a plus de tension alors, et personne ne pourrait regarder à nouveau la totalité du match. C'est pour... Donc ça, on l'a déjà lu. Donc, il ne nous viendrait pas à l'idée de visionner toute la finale de la Coupe du Monde 1966 à Wembley, mais on va chercher sur Internet le but contesté de Geoffrey Hurst pour l'examiner avec soin sur notre ordinateur. Alors, ici, on a une présence, finalement, de moments phares qui vont remplacer le temps entièrement vectorisé vers une suite. Ce qui peut, en quelque sorte, remplacer cette non-connaissance de la fin, c'est le moment où on oublie le temps qui passe, ou le moment où il y a un temps absolument splendide, imprévu, qui va rompre la trame ordinaire qui apparaît. Alors, autre phénomène d'intensité, il y a des intensités symboliques. Lorsque on a l'impression que le paysage extérieur ne fait que, en quelque sorte, retranscrire l'état intérieur dans lequel se trouve le personnage. Ça nous fait penser un peu à l'épistémée de la Renaissance selon Michel Foucault, c'est-à-dire que le personnage voit en quelque sorte l'état de ses propres pensées, de son microcosme, se projeter dans le macrocosme. Et c'est l'exemple ici. C'est-à-dire que l'attention symbolique, elle est intéressante pour le lecteur, c'est parce qu'il voit en quelque sorte le réel entièrement tissé de sens. Le personnage est dans une signification et l'univers réel renvoie au personnage exactement le même type d'interprétation et de signification, en quelque sorte vécue, que celle dans laquelle se trouve le personnage dans son intériorité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intensité sous forme symbolique. Enfin, une dernière forme d'intensité, l'intensité énonciative, c'est par la syntaxe et le choix de vocabulaire qu'on essaye de, classiquement, comme dans un roman policier, faire attendre une suite. Était-ce perdu d'avance avec Marie ? Et que pouvais-je en savoir alors ? Avec les mots « alors », on flèche évidemment une sorte de suspense du a posteriori qui revient sur le a priori. Serais-je jamais fini avec Marie ? Alors, je reviens sur la question du rythme, parce que vous aviez... penser à cela, Benoît Peters hier, en disant finalement, plus on décrit longuement les textes, plus ça dilate et plus on a l'impression que finalement on perd peut-être une certaine rythmique. Alors moi, j'aurais une hypothèse inverse. Il me semble que si les segments de phrases sont prononcés à peu près tous à la même allure, plus on a de syllabes à prononcer dans un segment de phrase, plus on le prononce rapidement. De sorte que j'ai essayé de montrer ici que finalement, la question du rythme et des rythmes d'intensité, elle n'était pas en quelque sorte déconstruite par des longues phrases, mais au contraire, elle incite le lecteur à accélérer. Hein. Nous dévalâmes une dune de sable gris, 11, lentement. Et du coup, effectivement, là, on n'a que trois syllabes dans un segment de phrase. La voix se pose, on prend le temps de le dire, freiner. Et donc là, la présentation rythmique ne fait que souligner le sens du mot. Et de nouveau, on a une sorte d'intensité d'accélération enlisée dans un profond sillon de sable et de gravier qui se creusait sous notre poids. Il n'y avait qu'une activité limitée dans le chantier, 16 syllabes, quelques crues à l'arrêt parmi des mares d'eau croupissantes aux reflets lunaires. Donc j'ai l'impression que malgré tout, bien qu'il y ait des phénomènes de dilatation du nombre de syllabes, malgré tout, puisque en quelque sorte les segments ont, je ferai l'hypothèse qu'ils ont dans l'esprit du lecteur la même durée, on peut imaginer aussi qu'il y a un phénomène de presse, d'intensité de la part du lecteur quand il se trouve devant une phrase particulièrement longue. Voilà. Alors voilà pour l'intensité. Et enfin, je termine sur la troisième partie très vite. J'ai fini. L'énigmaticité du présent. Que se passe-t-il lorsqu'on a affaire non pas à une fin inconnue, non pas à une poursuite, à un conflit, mais lorsqu'on est dans une sorte de protensivité molle, lorsque, comme dans la vie, rien de spécifique n'apparaît. Alors, c'est l'expérience de la surprise. Le kairos, ce qui arrive, ce qui fait intérêt, c'est quelque chose qui peut être totalement anodin. Tout se rassemble non pas alors comme vers l'avant, mais dans la perception de cette improbabilité, de cette, en quelque sorte, esthétique de la présence, qui fait que par un regard soudain, en quelque sorte, naïf sur le monde nous apparaît dans toute son incrédible énigmaticité, son opacité. Finalement, c'est l'opacité, c'est l'absence de sens du monde qui va, à contrario de ce que j'essayais de démontrer avant, c'est l'absence de sens qui va nous intriguer, bizarrement. On est alors dans une sorte d'esthétique du ready-made, offert par la réalité. L'esthétique de ce que donne le réel, à condition qu'on ne le voit pas de trop près ni de trop loin, à condition de changer d'échelle et de poser peut-être un regard myope, ou tout simplement à condition de froisser la carte du monde et de se retrouver en Chine, où le narrateur devient une sorte d'enfant naïf de 7 ans. Pendant ce premier séjour à Guangzhou, un véritable lien ombilical m'a uni à Shentong, qui, en plus d'être mon éditeur et mon ami, fut une mère pour moi. Il veillait à mes désirs, etc. Donc, en fait, le personnage narrateur arrive en Chine et se trouve devant un réel qui lui est totalement énigmatique et totalement opaque. Ainsi, on a un phénomène, en quelque sorte, de... c'est terminé ici, d'intrigue, parce que... ne connaissant pas les codes du monde dans lequel il se trouve, le personnage ne fait que buter sur une société qui lui est véritablement énigmatique. Alors, j'en donne un exemple. Et tandis qu'il évoquait alors l'ascendance de cet enfant, le personnage dans Made in China discute avec son éditeur et il parle de leurs enfants. Et là, on a affaire à une citation, à mon avis, très... très, très étonnante, et tandis qu'il évoquait alors l'ascendance de cet enfant, en faisant allusion en français, en chinois, c'est là que les choses ont dû se corser, à quelques personnes mystérieuses, Xing Chun, qui gravitaient dans l'entourage de cet enfant, mais dont je n'arrivais pas très bien à déterminer le rôle, je lui demandais, m'impatientant, mais qui est cette personne? Il m'a répondu en français, et j'en suis restée pantois, sujet à de longues méditations rêveuses, mon mari. Bon, il voulait dire sa femme. Le genre chinois n'a pas la même importance qu'en français. C'était la première fois que j'entendais parler de Madame Shentong. Donc, dans ce cas-là, on voit bien que le dépaysement dans l'univers inconnu et dans une langue peu connue offre l'expérience étonnante de ce qu'est celle du jeune enfant qui découvre notre monde. En conclusion, le rapport au temps donc proposé par les textes autobiographiques et les textes fictifs me semble souvent orienté par une forte intrigue, comme dans le cas de la fuite, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Il existe aussi une densification du rapport au temps lorsque le temps est plat et que l'expérience de la vie est ordinaire. Comment le lecteur peut-il donc être dans une situation d'intérêt pour un texte? Alors, nous avons fait l'hypothèse que ce vécu du lecteur faisait alterner deux formes de tension narrative différentes, soit a lieu un véritable suspense, on ne sait pas ce qu'on fuit, si on sera rattrapé par la police ou pas, soit on est présenté face à une expérience qui thématise l'intense de notre vie quotidienne, intense amoureuse, intense du bowling, du football, comme dans une sorte d'extase hors du temps, soit la tension est énonciative et se communique au lecteur par des indices de romans policiers, ou bien au contraire, le lecteur vit l'expérience de la surprise devant le réel, opaque, énigmatique. Le transfert dans un univers au chronotope différent le permet évidemment, puisqu'on est tout à fait ignorant de la nouvelle société dans laquelle on se trouve, mais parfois le personnage narrateur choisit de s'arrêter même sur le réel du quotidien, de sa vie européenne, d'en ralentir la perception et de nous le rendre alors d'autant plus étonnant.